Benki va vous causer. Benki va vous parler.
Yo! Alors déjà un grand merci à tous ceux et toutes celles qui laissent des commentaires sur ce type de vidéo, notamment sur la dernière concernant le premier MMORPG console. J'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils aiment beaucoup ce format, du coup bah on va pas se priver. D'ailleurs je le rappelle, si vous aimez ce format, sachez que j'ai lancé un podcast qui est disponible pour les Patreons, mais avec un épisode en accès libre si vous voulez écouter à l'avance ce que ça donne. Et d'ailleurs, si vous aimez vraiment ça, sachez qu'aujourd'hui, je suis venu avec mes 18 pages de notes. En même temps, c'est normal, hein, cette affaire me tient particulièrement à cœur, parce que cette affaire concerne une personne que, à un moment de ma vie, j'ai pu considérer comme une idole ou un modèle. Et c'est justement ça le problème, hein, c'est que quand on commence à idolâtrer quelqu'un, on finit forcément par être déçu, et c'est pour ça que c'est important de remettre en question même les gens qu'on estime le plus. C'est d'ailleurs ce que j'avais déjà un peu fait quand j'avais préparé ma longue vidéo sur Yuji Naka. Croyez-moi, ça n'a pas été ultra facile de découvrir les méthodes peu orthodoxes du bonhomme. D'ailleurs, depuis la sortie de la vidéo, il a fini en prison pour délit d'initié, donc voilà quoi. Bien sachez qu'on va s'intéresser aussi à quelqu'un qui, à une époque, était une des stars de la maison Sega, et même si depuis, cette personne a beaucoup travaillé dans l'intégralité de l'industrie du jeu vidéo sans préférence d'éditeur, ce sont des années à travailler comme musicien et compositeur pour la Mega Drive qui auront sans doute donné naissance à cette renommée. Je parle bien évidemment du musicien, auteur, compositeur, showman, créateur de consoles, le seul, l'unique, l'inimitable, le self-made entrepreneur, Tommy Tallarico. Si vous ne le connaissez pas, c'est un musicien qui s'est fait connaître principalement en tant que compositeur de musique de jeux vidéo, quelqu'un qui a été très prolifique dans les années 90, avec un nombre incalculable de contributions au répertoire de l'industrie du jeu vidéo. D'ailleurs, c'est encore lui aujourd'hui qui détient le record du monde du nombre de contributions à des musiques de jeux vidéo. Au passage, c'est aussi lui qui est derrière la série de concerts Video Games Live, qui a été très populaire dans les années 2010, des concerts auxquels il participait en tant que guitariste. Et pour vous dire à quel point à l'époque j'étais fan, j'ai même été le rencontrer et discuter quelques minutes avec lui, justement à l'occasion d'un de ses concerts. Alors je m'abstiendrai de vous décrire la teneur de la conversation, principalement parce que c'était pas très intéressant. Je crois que je lui avais demandé sur quel modèle de guitare il avait joué ce soir-là ou un truc dans ce goût-là. Cependant, le concert était super bien, Tommy jouait super bien de la guitare, et en vrai ça va, j'étais pas déçu, à part peut-être que j'étais un peu loin de la scène et que je voyais pas grand-chose, mais ça c'est pas le sujet. Non, le vrai sujet c'est qu'on a appris récemment que Tommy Tallarico était aussi le créateur, que dis-je, le génie, derrière le fameux de Roblox. Ce sound effect, on l'associe beaucoup au jeu, c'est devenu carrément un mème internet. Et du de Roblox, il va bien être question dans cette vidéo, et notamment des raisons de sa disparition soudaine du jeu il y a presque un an. Puisque c'est ce simple bruitage de quelques kilo-octets qui est à l'origine de toute l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce qu'après avoir été utilisé de nombreuses fois sur YouTube comme un mème, ce .mp3 va tomber dans les mains du mauvais YouTuber et mettre fin à des décennies de mensonges. Alors prenez une boisson fraîche et installez-vous confortablement, parce que nous allons nous perdre ensemble dans les petits mensonges de Tommy Tallarico. Alors on va commencer par apprendre à mieux connaître notre cher Tommy Tallarico. Alors il est né en 1969 dans le Massachusetts, et très vite en fait il va apprendre à jouer de la guitare, si bien qu'un de ses premiers petits boulots quand il était jeune adulte, eh bien, c'était de travailler dans un Guitar Center, c'est les magasins de musique gigantesques aux États-Unis. Et en fait, il va pas vraiment y rester longtemps, puisque dès son premier jour de travail, il va tomber sur un client avec lequel il discute, et il apprend vite que ce client, c'est quelqu'un qui est assez haut placé chez Virgin. Virgin, en 91, c'est un mastodonte, surtout dans l'industrie musicale, et justement, il cherche des jeunes esprits créatifs. En fait, à cette époque-là, Virgin se lance à la conquête du marché du jeu vidéo avec sa filiale Virgin Interactive. Et justement, ce client fait part à Tommy qu'il cherche des jeunes motivés pour tester les jeux vidéo avant leur sortie. Alors Tommy, il réfléchit pas, hein. Il est à peine majeur et on lui propose de gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo. C'est pas vraiment une proposition qui peut se refuser, et il rejoint donc l'équipe de playtesters de Virgin Interactive. C'est un boulot qui lui plaît, mais il voudrait avoir plus, et donc très rapidement, il va se mettre son patron dans la poche, et il va réussir à suggérer que bah lui aussi il est musicien et il pourrait contribuer aux musiques des jeux vidéo de Virgin Interactive. Et c'est comme ça qu'il va réussir à devenir musicien pour eux, avec comme premier projet le portage de Prince of Persia sur Game Boy. Voilà comment à 23 ans, Tommy Tallarico a réalisé son rêve, vivre de sa propre passion, de sa propre musique. Et en plus il fait de la musique pour des jeux vidéo, un média qu'il apprécie depuis toujours. Tommy va faire les musiques de nombreux jeux Virgin Interactive, comme par exemple Terminator sur Mega Drive, un projet sur lequel il va rencontrer un certain David Perry. Alors David Perry, hein, c'est un programmeur qui commence à gagner en responsabilité chez Virgin Interactive. David et Tommy vont très bien s'entendre et ils vont un peu chacun voir en l'autre un excellent partenaire de business. Ils vont d'abord commencer par monter ensemble deux jeux, Global Gladiators et Cool Spot, deux jeux à la base spécialement créés pour la Mega Drive qui ont été portés sur d'autres plateformes. Et puis après avoir bossé ensemble sur Aladdin Mega Drive, ils vont chacun de leur côté créer leur propre boîte. David Perry de son côté, il va monter Shiny Entertainment, un studio de développement de jeux vidéo. Quant à Tommy, il va créer Tommy Tallarico Studios, un studio de musique censé créer les musiques des jeux de David Perry, mais aussi pour proposer ses services à d'autres boîtes, que ce soit du jeu vidéo ou non. Et c'est une équipe qui marche, puisque dès leur première collaboration sur Earthworm Jim, le succès est complètement au rendez-vous, avec une presse qui est aussi dithyrambique concernant les musiques du jeu que les animations des personnages qui ont fait son succès. Et après cette sortie, le nom de Tommy Tallarico et David Perry vont être au bout de toutes les plumes, de toutes les bouches et donc dans toutes les oreilles. Et il leur faudra à peine quelques jeux pour que Shiny Entertainment et Tommy Tallarico Studios se forgent une extrêmement bonne réputation. Surtout Tommy d'ailleurs, parce qu'il travaille beaucoup plus. En effet, hein, faire une soundtrack de jeux vidéo, c'est quand même plus rapide que de développer un jeu. Et ce dernier va donc faire les belles heures du chipset son de la Mega Drive jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle. Ensemble, David et Tommy vont donner naissance à une suite pour Earthworm Jim, ce qui va leur permettre de chacun prendre leur envol et s'éloigner un petit peu de Virgin Interactive, qui à ce moment-là est en train de mourir avec l'arrivée des premières consoles en 3D. Mais justement, l'arrivée de la 3D pour Tommy, c'est une vraie aubaine, puisque désormais, les jeux vidéo sont sur CD et les musiques peuvent donc être lues sur ce support. Ça permet de proposer de la musique de meilleure qualité pour les jeux, et ça tombe bien, hein, parce que Tommy, bah, il est déjà équipé pour produire de la musique studio. En fait, si Tommy a un coup d'avance, c'est simplement parce que quand il a créé son studio, il s'est dit qu'il allait tout miser sur le méga CD pour essayer justement de vendre de la musique studio. Bon, au final, il lui aura fallu juste un petit peu de patience, puisque les années Saturn et PlayStation vont lui permettre de mettre son studio à disposition de grands éditeurs et de nombreuses sorties marquantes de cette époque, et même des époques qui ont suivi, hein, puisque Tommy Tallarico ne s'est jamais arrêté. Du premier Tony Hawk sur PlayStation, en passant par Enter the Matrix, Metroid Prime et même Sonic and the Black Knight sur Wii. D'ailleurs, à l'époque, il expliquait lui-même que ça faisait de lui le premier américain à avoir travaillé sur Sonic. Alors sur ce coup-là, je vais remettre la parole de Tommy en doute, hein, je pense qu'il a été mal renseigné. En tout cas, si vous consultez la liste des crédits attribués à ce grand nom de la musique de jeux vidéo, vous vous rendrez vite compte que vous possédez forcément un des jeux sur lesquels il a travaillé dans votre bibliothèque, tellement il a participé à de nombreux projets. Au point même qu'en 2008, il sera nommé par le Guinness Book des records du monde comme étant la personne ayant le plus composé de musique de jeux vidéo au monde. Mais aussi le record du monde du plus grand nombre de récompenses pour des musiques de jeux vidéo, avec 48 awards au total tout de même. Et ce ne sont pas là les seules contributions de Tommy à l'industrie du jeu vidéo, puisqu'en 2002, Tommy a lancé avec un autre compositeur de jeux vidéo, Jack Wall, qui avait fait les musiques de Splinter Cell et de Myst, le projet Video Games Live, une série de concerts orchestraux qui ne joue que des musiques de jeux vidéo et qui va commencer à devenir populaire dans les années 2010, jusqu'à atteindre une renommée mondiale. C'est d'ailleurs ce qui vaudra à Tommy deux autres records du monde, celui du nombre de concerts de musique de jeux vidéo joués et celui du concert de musique de jeux vidéo ayant réuni le plus de spectateurs. Bon, à ce niveau-là, on peut parler de véritable success story, avec une carrière qui atteint des sommets en termes de réputation et de reconnaissance. Faut savoir qu'au début des années 2000, Tommy a carrément obtenu sa propre émission de jeux vidéo sur le câble. Et on constate que cette émission, elle lui a ouvert énormément de portes un peu prestigieuses. Comme par exemple, celle de l'émission MTV Cribs. Ouais ouais, l'émission où les célébrités d'Hollywood montrent leur baraque. Tommy Tallarico, ça a l'air d'être un très bon client, hein, puisqu'il en a fait plusieurs épisodes. Et si on regarde au global la vie de Tommy Tallarico, en fait, c'est juste une série de succès uniquement due à son talent ou à sa persévérance. Et à ce niveau-là, ça va être difficile pour lui d'avoir un meilleur CV, à part peut-être en créant sa propre console de jeux vidéo. Bah non, Tommy, prends pas ça au premier degré, c'était une blague. Bah oui, c'était une blague. 2018, Tommy Tallarico rachète la marque Intellivision dont il va devenir le président. Alors Intellivision, c'était surtout le nom d'une très vieille console fabriquée par Mattel à la fin des années 70. La marque seule ne valant plus grand chose, il décide de la racheter dans l'objectif de sortir une nouvelle console. Une console avec des valeurs très différentes de ce qui se fait sur le marché actuel. Alors la console s'appelle l'Intellivision Amico, et en fait toute la communication autour est un peu basée sur une nostalgie un peu crado. On nous parle d'une console dédiée à la famille, avec des jeux simples, tous jouables en multijoueur. Et dans le canapé, hein, parce que cette console n'est pas connectée comme les bonnes vieilles consoles des années 80. Vous savez, cette époque où on savait se retrouver tous ensemble pour jouer, et bim, retour à la réalité, le Covid-19. Tout se passe pas très bien en interne, et plutôt que de la lancer directement, ils décident de la faire kickstarter. Bon alors évidemment, ça n'a pas marché. Du coup, ils ont réessayé, mais sur un autre site de financement participatif. Ça n'a pas marché non plus, et puisque jamais 203, ils ont quand même fait un troisième crowdfunding qui, lui non plus, n'a pas marché, et quand ça veut pas, ça veut pas. Et au bout de 3 tentatives de financement ratées, ils vont quand même jeter l'éponge et annoncer l'annulation totale de l'Intellivision Amico.
Ça n'a pas marché.
Alors justement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, déjà, une Intellivision, moi ça me parle, mais on n'est plus vraiment beaucoup à savoir ce que c'est. Par exemple, ça, c'est une Colecovision et non une Intellivision, et je pense que si je vous l'avais pas dit, ça aurait pas changé grand chose pour vous. Pour info, une Intellivision ça ressemble à ça, et pour s'en souvenir, c'est très simple, c'est la machine à voyager dans le temps de Marcus, mais sans la grosse boule magique. Bon, puis il faut dire que tout le positionnement marketing à base de jeux non violents et de familles retrouvées, c'était un peu too much. Surtout qu'à aucun moment, les spécifications techniques de la console n'avaient été précisées, en dehors du fait qu'elle n'était pas connectée à internet et que donc elle aurait pas le wifi. Et justement, après cette annulation, il y a un article qui va sortir sur Ars Technica qui dévoile concrètement quelles étaient les spécifications hardware de la console, en tout cas ce qu'ils avaient prévu pour la Mico. Cet article disait globalement que le hardware de la console était aussi cheap qu'une console chinoise topée sur AliExpress. Globalement dans la console il y avait l'équivalent d'un smartphone d'entrée de gamme de 2016. Alors évidemment, Tommy Tallarico, quand il va voir ça, il va se réveiller et il va commencer à menacer le journaliste qui avait publié l'article de le poursuivre en justice. Sa grosse erreur, c'est d'avoir fait ça sur Twitter. Et en fait, les gens vont lui faire subtilement remarquer que l'article est basé sur des documents qui étaient déjà publics et qui étaient déjà consultables par tout le monde depuis quelques semaines. Alors techniquement, le journaliste s'est basé sur des documents qui étaient déjà rendus publics. Bon bah là, Tommy a un bon réflexe, il supprime tous ses tweets de menaces. Mais par contre, il va commencer à répondre en MP à un peu tout le monde, soit pour se plaindre, soit pour mettre des coups de pression. Mais en même temps, je comprends qu'il soit énervé parce que ça dévoile un peu la supercherie. Le dropshipping de consoles, c'est pas du tout un truc nouveau. D'ailleurs, je peux pas m'empêcher de mentionner la fameuse console du rappeur Soulja Boy. C'était à peu près le même schéma, avec une console low cost, kickstartée, puis revendue plus cher. La seule différence entre Soulja Boy et Tommy Tallarico étant que Soulja Boy, il avait aucune crédibilité dans le monde du jeu vidéo. Et apparemment pas énormément non plus dans le monde de la musique, ce qui fait que quand il a annoncé sa console, tout le monde l'a vu venir et s'est moqué de lui sur internet. Là où Tommy Tallarico, de son côté, il a une véritable crédibilité et une vraie ancienneté, assez en tout cas pour que de grands sites de jeux vidéo transforment les communiqués de presse pour la Mico en articles sans vraiment trop se poser de questions. Et c'est cette crédibilité qui va doucement être remise en question pendant les mois qui vont suivre. Alors revenons pendant la débâcle qu'a été cette nouvelle ancienne console, et plus précisément au moment où la Mico lançait ses Kickstarter. Après l'échec du lancement, on aurait pu croire que Tommy Tallarico allait faire profil bas et retourner faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire de la musique de jeux vidéo. Mais que nenni, rappelez-vous que Tallarico et succès sont deux mots qu'il faut juxtaposer à tout prix, et que d'une façon ou d'une autre, il va devoir partir sur une victoire. Et c'est sans doute en cherchant à rendre la Mico plus intéressante qu'elle ne l'est réellement, qu'il s'est rendu compte que sur internet, de nombreuses personnes parlaient d'un très vieux jeu auquel Tommy Tallarico Studios avait participé. Le jeu en question, c'est un jeu qui est sorti dans les années 2000 sur PC et qui s'appelle Messiah. J'y avais joué à l'époque de sa sortie et j'avoue que j'avais trouvé ça marrant même si je l'avais pas fini. Et revoir des images comme ça, ça me fait beaucoup penser à tous ces FPS de l'époque de type Requiem, Avenging Angel ou même Blood 2 par exemple. De toute manière, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la bande-son du jeu et plus particulièrement sa bibliothèque d'effets sonores. En fait, il se trouve que ce dossier son cachait en son sein la toute première utilisation du fameux de Roblox, devenu un mème 15 ans plus tard. Oui oui, c'est bien la première apparition connue de ce sound effect qu'on a par la suite pu entendre dans bien d'autres productions, dont Roblox. Bon, c'est un timing parfait pour Tommy qui se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer et qui va commencer à se présenter comme le créateur du de Roblox dans chacune des vidéos de présentation de l'Amico. Sauf que comme vous le savez, le projet ne va pas très bien. Faut savoir que la production de la console lui coûte très cher, surtout parce qu'il a dépensé sans compter, notamment pour l'achat de locaux juste avant la crise du Covid, qui vont rester complètement vides. C'est sans doute pour ça qu'il va passer à la vitesse supérieure et sortir sa carte secrète, pas si secrète. Cette histoire de Sound Effect qui devient un meme internet, ça commence à le travailler. Et il se dit que depuis 2006, date de création de Roblox, il y a un jeu qui utilise un Sound Effect à lui et que son studio n'a jamais été crédité. Et sa logique, c'est que ça représente un manque à gagner incroyable. Il explique à nouveau que c'est donc lui le créateur de ce Sound Effect et que depuis son apparition dans Roblox, lui le créateur n'avait jamais touché un centime dessus. Alors que selon lui, c'est ce Sound Effect qui est en partie responsable de la popularité de Roblox. Alors que Roblox n'est pas crédité Tommy Tallarico Studios pour le Sound Effect, ça effectivement, ça pourrait être éventuellement assez injuste. Surtout que dans ses streams, il précise maintes et maintes fois qu'il ne veut surtout pas que Roblox supprime ce Sound Effect, parce que ça fait partie du jeu, et puis parce que les dollars s'en iraient avec. Et surtout, il précise qu'il n'a pas attaqué Roblox en justice. Enfin, pas encore. Donc en gros, il attend surtout de Roblox une compensation financière pour l'utilisation du Sound Effect qu'il a créé. Et secrètement, j'imagine qu'il espère que la réponse de Roblox, ce sera un gros chèque avec plein de zéros. Bon, vous noterez quand même l'ironie de la situation. Le mec a le record du monde du nombre d'apparitions dans des crédits de jeux vidéo, et en fait là, il se plaint de pas être crédité. Et surtout, il estime que ce Sound Effect est responsable de la popularité de Roblox, et donc de sa fortune. Alors que Roblox, leur technique pour gagner de l'argent, c'est plutôt d'entuber des jeunes développeurs et de se torcher avec les droits du travail. Mais bon, ça c'est une autre affaire, et d'ailleurs, je pourrais vous en faire une vidéo si ça vous intéresse, l'arnaque derrière Roblox. Faites-moi en part dans les commentaires. Alors chez Roblox, ils vont bien répondre à Tommy Tallarico, mais alors pas du tout avec un chèque. En fait, ils vont expliquer que ce Sound Effect, ils l'ont sorti d'un CD de compilation d'effets sonores réservés aux professionnels, et qu'après vérification, ils ont bien payé la licence pour l'utiliser. Malgré tout, dans la foulée, et par précaution j'imagine, ils vont purement et simplement remplacer le historique et le remplacer par un autre Sound Effect. Et alors, est-ce que c'est Tommy Tallarico le fautif? Je sais pas, parce que Tommy Tallarico, en fait, il avait pas demandé une si grande compensation que ça. Selon lui, il aurait demandé 10 000 dollars pour l'utilisation à vie de son Sound Effect et rien de plus. Et ça s'arrête pas là, parce que Roblox avait tout prévu. À ce moment-là, Roblox a annoncé la possibilité de créer soi-même ses Sound Effect et de les monétiser dans le jeu, et c'est ce qui a été proposé directement à Tommy Tallarico, qui a lui-même vendu le ouf sur la boutique de Roblox pour que les joueurs puissent l'intégrer dans leur jeu. Bon alors évidemment, il l'a vendu sur le store de Roblox à un prix absolument normal. Il en a aussi profité pour ouvrir une boutique de merchandising officielle consacrée au ouf. Enfin voilà, vous imaginez. Je n'imaginais même pas dans quelles extrémités Roblox a dû pousser Tommy Tallarico pour qu'il en arrive là. Et même s'ils étaient dans leur bon droit, ils ont quand même trouvé une façon de contenter tout le monde sans rien dépenser. Alors que Roblox, bah, c'est une entreprise qui est au moins multimillionnaire, donc 10 000 dollars c'est rien pour eux. Surtout si c'est pour rémunérer l'auteur d'un Sound Effect mythique comme celui-là. Et c'est là où on en arrive au cœur de notre affaire, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas vérifié, c'est si Tommy Tallarico en était vraiment l'auteur. C'est à ce moment-là qu'intervient un youtubeur anglophone dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle EdgeBomberGuy. C'est un vidéaste que je suis depuis quelques années, notamment parce que j'aime beaucoup les vidéos qu'il a fait sur Fallout 3, Fallout New Vegas, Deus Ex. Sur YouTube, je pense qu'on peut dire qu'il se classe un peu dans la catégorie des vidéos essais, c'est-à-dire des vidéos écrites avec un minimum donc de recherche, d'analyse. Bref, je vous recommande d'ores et déjà d'aller voir sa chaîne. Et justement, à la mi-novembre, j'ai reçu dans mes abonnements sa toute nouvelle vidéo qui s'appelle Roblox.mp3. Alors cette vidéo, si vous parlez anglais, coupez tout de suite ma vidéo et allez la voir. C'est une très longue enquête et je ne veux surtout pas m'approprier son travail. Donc si vous avez le temps et que vous comprenez l'anglais, allez directement la voir, ça ira plus vite. Cette vidéo qui est très longue, c'est un travail de recherche monstrueux. Et donc voilà en globalité ce que EdgeBomberGuy a déterré et ce qu'on y a appris. En premier lieu, EdgeBomberGuy a mené une vraie enquête pour savoir si c'était vraiment Tommy Tallarico qui était à l'origine du Sound Effect. Première surprise, après une rapide recherche dans les métadonnées du fichier, il semblerait que ce ne soit pas Tommy Tallarico qui soit à l'origine de cet effet sonore, mais bien un des sound designers qui travaillait à l'époque pour Tommy Tallarico dans ses studios, un dénommé Joey Kouras. C'est lui qui est noté comme étant l'ingénieur dans les métadonnées du fichier. En tout cas, c'est ce qu'on trouve quand on analyse le fichier qui était présent dans le jeu PC Messiah. Et EdgeBomberGuy, il va aussi se rendre compte que quand Messiah avait été déterré, Tommy Tallarico avait bien commencé par créditer son employé sur Twitter, avec même un tweet en réaction à la découverte du Sound Effect dans Messiah, où Tommy explique qu'effectivement, c'est bien Joey Kouras qui avait créé ce son à l'époque où il travaillait dans son studio. Sauf qu'au final, de tweet en tweet, d'interview en vidéo promo, son discours va progressivement changé pour devenir la version que Tommy donne encore aujourd'hui et qu'il avait donné dans ses vidéos promo pour la console Amico. avec un talarico qui certifie que c'est lui le créateur du Et ce qui est très drôle, c'est que quand on lit chronologiquement les tweets supprimés de Tommy Talarico, on se rend vite compte que Tommy ne connaissait pas du tout Roblox, et il ne se doutait pas du tout de la gigantesque popularité du meme sur internet, ni du succès du jeu et des sommes considérables que Roblox amasse tous les ans. Et du coup, on voit clairement que plus il en apprend sur cette histoire, plus il va essayer de s'approprier le sound effect. Sans doute après avoir cherché Roblox sur Google, et on se rend rapidement compte qu'il a vite changé de version quand il a compris que l'enjeu était gigantesque, en supprimant au passage toute trace des tweets qui créditaient Joey Kouras. Et c'est à ce moment-là que le ouf de Roblox va intégrer son pédigré définitif, au même titre que ses records du monde. Pourtant, ce dernier reste bien incapable d'expliquer comment ce sound effect a été créé. Alors que du côté du portfolio en ligne de Joey Kouras, qui ne s'est jamais exprimé sur l'affaire, il est mentionné depuis des années que c'est lui qui s'est occupé de l'intégralité des sound effects de Messiah. Donc il n'y a aucun doute, c'est bien Joey Kouras. Et justement, c'est en tombant sur le portfolio en ligne de Joey Kouras que notre vidéaste va ouvrir une véritable boîte de Pandore sur laquelle personne ne s'attendait à tomber. Bon, alors en fouillant sur ce portfolio, Edgebomber Guy va très rapidement se rendre compte qu'un certain nombre de jeux auxquels Tommy Talarico se targue d'avoir participé sont aussi listés parmi les travaux de Joey Kouras. Comme par exemple le premier Tony Hawk Pro Skater, que Tommy ne cesse de citer comme étant un des grands jeux auxquels il a participé, et qui est pourtant présent sur le portfolio de Joey Kouras. Et évidemment, si on va fouiller dans le générique du premier Tony Hawk sur PlayStation, c'est bien Joey Kouras qui est crédité et semble avoir travaillé dessus. Certes, le nom de Tommy Talarico est bien cité, mais en tant que nom d'entreprise et non en tant qu'individu ayant fait un quelconque travail sur le jeu. Alors ok, il s'attribue le mérite de sa boîte, mais en même temps, est-ce que c'est pas juste un truc de patron de s'attribuer le mérite de ses employés? Mais non, en fait, le pire dans cet exemple, c'est que pendant les interviews, il fait vraiment comme s'il avait été là. Et en fait, on est exactement dans le même cas de figure que le de Roblox, dans le sens où à l'époque de la sortie du premier Tony Hawk Pro Skater, Tommy Talarico ne s'en vantait absolument jamais. Alors que justement, hein, c'est ce que démontre Edgebomber Guy, à l'époque il avait pignon sur rue pour parler du travail qu'il avait fait sur Tony Hawk, puisqu'il avait carrément une émission de jeux vidéo à la télé. Une émission d'ailleurs dans laquelle il ne manquait jamais de préciser quand il avait travaillé sur un jeu. Et dans ces émissions, il a eu l'occasion de parler plusieurs fois de Tony Hawk et il n'a jamais parlé du fait qu'il y avait participé. En même temps, faut dire que la licence Tony Hawk, elle était pas très connue ni très populaire à la sortie du premier épisode. Et effectivement, ce n'est qu'après la sortie de quelques épisodes de la série Tony Hawk, une fois la popularité de la franchise bien installée, que Tommy va commencer à s'inventer une participation au premier Tony Hawk Pro Skater. Et en fait, ce qu'on va découvrir en descendant dans le terrier du lapin, c'est que c'est un schéma qui va se répéter pour un bon nombre de jeux qui sont listés dans la ludographie de Tommy Talarico. On se rend très vite compte en vérifiant les génériques que Tommy Talarico, bah, il composait surtout de la musique de jeu, et que c'est en fait Joey Kouras qui s'occupait de toute la partie effets sonores pour tous les projets de Tommy Talarico Studios. Et c'est aussi ce qui est indiqué lorsqu'on regarde au dos des CD de compilation vendus par Tommy Talarico Studios. Et c'est aussi ce qui est écrit sur le fameux portfolio en ligne de Joey Kouras. Il était sound designer pour Tommy Talarico Studios, et donc il a créé des sound effects pour un nombre incalculable de jeux. Et Edgebomber Guy ne manquera pas de noter qu'il a aussi fait les sound effects pour l'émission de jeux vidéo de Tommy. Et en poussant un peu plus loin les recherches, on se rend même compte que Tommy Talarico avait parlé de Messiah dans son émission de jeux vidéo, et qu'à aucun moment il ne précise avoir travaillé dessus non plus. Alors on est bien d'accord que ça représente pas de preuve de qui a masterisé l'effet sonore, mais ce qui est sûr, c'est que ça met au moins grandement en doute la parole de Tommy Talarico, qui apparemment s'attribue des participations à des jeux ou pas en fonction des époques. Et voilà donc qu'en bon enquêteur, Edgebomber Guy va commencer à remettre en doute l'intégralité du pédigré de Tommy, juste par acquis de conscience quoi, et au fil des recherches, voilà ce qu'il va découvrir. Bon alors déjà, Tommy Talarico n'est pas le premier américain à avoir bossé sur un Sonic. No shit Sherlock, hein, si vous aviez vu ma vidéo sur Yuji Naka, vous le saviez déjà. Et on peut dire que là-dessus, Tommy Talarico avait genre 15 ans de retard. Surtout que lui-même a confirmé que Michael Jackson avait bossé sur Sonic 3. Alors pourquoi lui il a confirmé ça, personne ne sait, hein, il a pas bossé sur Sonic 3. Ensuite on va découvrir que même si Tommy Tallarico clame à qui veut l'entendre qu'il a bossé sur Metroid Prime pendant 4 ans avec Shigeru Miyamoto, bah Tommy Tallarico n'était en fait intervenu que dans les toutes premières heures du développement et uniquement pour des sound effects, donc sans doute créés par Joe Kouras, et non pour de la musique composée par Tommy. Le truc c'est que quand Retro Studios est arrivé sur le projet après quelques mois de prod par Nintendo, ils n'ont plus eu besoin d'une aide externe pour la création d'effets sonores et ont tout fait en interne. D'ailleurs, c'est même confirmé par la vraie personne hein, qui a fait les sound effects de Metroid Prime pour Retro Studios, Clark Wen, mais aussi confirmé par une note de blog de Tommy à l'époque sur son propre blog, où il explique justement ce que ça fait de partir très tôt d'un jeu en cours de développement, une note dans laquelle il précise que c'était Joe Kouras qui avait travaillé. Metroid Prime d'ailleurs que Tommy ne s'est pas retenu de bâcher dans son émission, évidemment sans se vanter d'avoir travaillé dessus. C'est très bizarre que son discours change 10 ans plus tard sans aucune mention de Joe Kouras, et avec des anecdotes sur la méthode de travail de Miyamoto en plus qui sont assez invraisemblables, alors que justement Shigeru Miyamoto, il était peu impliqué dans le développement de Metroid Prime à ce moment-là. Encore une exagération de Tommy dans laquelle il arrive à raconter des événements qui ne se sont pas réellement produits. Ou dit de manière moins polie, un gros mensonge. Et vous savez, c'est pour ça que c'est pas bien de mentir, parce qu'un mensonge amène toujours à un autre mensonge qui lui-même amène à un autre mensonge, et puis encore un autre, et encore un autre, et encore un autre. Comme quand par exemple Tommy raconte qu'il a bossé sur les 3 premiers Guitar Hero. C'est faux, il est juste remercié dans Guitar Hero 2, soi-disant parce qu'il aurait aidé l'éditeur à obtenir les droits sur une chanson d'Aerosmith, parce que selon lui, Tommy est soi-disant le cousin de Steven Tyler, le chanteur d'Aerosmith, et que c'est lui qui lui aurait parlé du jeu. Ce qui est bizarre, c'est que dans ses crédits, il est remercié au même endroit que les gros joueurs et les piliers de la communauté Guitar Hero. Et encore une fois, il en parle régulièrement comme s'il avait bossé sur les 3 premiers jeux. Mais du coup, qu'en est-il de ce record du monde de la personne ayant travaillé sur le plus de jeux vidéo? Et bah déjà, rien qu'en écoutant les déclarations de Tommy, le chiffre précis arrête pas de changer. On passe d'un Tommy qui aurait travaillé sur 270 jeux à 400 jeux, mais de temps en temps c'est 350, surtout qu'après vérification, on n'arrive même pas à 175 jeux, même en comptant toutes les différentes versions de chaque jeu quand il sort sur plusieurs plateformes. Sans compter aussi tous les crédits qui sont en fait à attribuer à Joe Kouras. Et puis il se trouve que Tommy, il est même pas dans le livre des records de l'année où il est censé l'avoir obtenu. En fait, il est bien dans un livre, mais c'est dans la Gamer Edition du Guinness Book, ce qui est quand même un peu différent. Et puis en plus, si on vérifie, il y a quand même des compositeurs de jeux vidéo qui ont fait plus de contributions que les 275 ou même 300 jeux dont Tommy se vante sur son site. D'ailleurs, le Guinness Book des records semble avoir rectifié le tir en changeant l'intitulé du record. Tommy est désormais le compositeur américain le plus prolifique et non le plus crédité dans des jeux vidéo. Seulement lui, évidemment, il a toujours gardé la même façon de présenter son record. Alors du coup, on peut se demander ce que vaut son autre record, celui de la plus grosse audience pour un concert de jeux vidéo. Eh bien, le concert en question a bien eu lieu à Pékin en 2015. Le problème, c'est que la majorité des 752 000 personnes qui étaient recensées pour ce record étaient en fait des spectateurs de la version streamée du concert sur Internet. Alors on se dit, ok, bon bah c'était au moins 80 000 personnes réelles, soit la capacité maximale du stade dans lequel le concert s'est tenu. Sauf que Tommy, il ment aussi sur le véritable lieu où s'est tenu le concert en interchangeant un peu les noms. Et après vérification, il ne s'agissait pas d'un stade de 80 000 places, mais d'une salle de concert de 2700 fauteuils. Alors attention, hein, 2700 personnes, c'est génial, hein, je dis pas le contraire. C'est même excellent, mais c'est pas un record du monde du tout. Surtout que ce soir-là, en fait, il y avait 700 fauteuils vides, donc en fait, ça fait 2000 personnes. Pour vous dire, il y avait plus de spectateurs au concert de Video Games Live auquel moi j'ai assisté. Et en définitive, on se rend compte que Tommy a un certain talent pour jouer sur les ambiguïtés et arranger la réalité pour qu'elle joue en sa faveur. Et il est facile de douter de la parole de Tommy en ce qui concerne le nombre de records qu'il exhibe, sachant qu'il grossit le chiffre à chaque fois qu'il en a l'occasion, en présentant parfois les versions rectifiées de ses records par le Guinness Book comme étant de tout nouveaux records totalement différents. Ça d'ailleurs on peut le voir hein, dans les différentes apparitions qu'il a fait dans la fameuse émission MTV Cribs. D'ailleurs, si vous connaissez un tout petit peu l'histoire de cette émission, maintenant on le sait, tout était bidonné. Souvent, ils mettaient une star dans une maison que la prod avait louée pour la journée. Et les seuls vrais épisodes de MTV Cribs qui n'étaient pas truqués, c'était les émissions qui étaient consacrées à Redman, à Paul Walker et à Chris Pontius. De toute manière, la question ne se pose absolument pas puisque c'est même pas MTV Cribs. Ce sont d'autres émissions hein, qui imitaient un peu le concept de Cribs, mais il n'y a eu aucun épisode d'MTV Cribs dédié à Tommy Tallarico. Dans le même genre, sur son site internet, on peut trouver son TED Talk, sauf qu'en fait, bah non, c'est juste une conférence TEDx, c'est-à-dire le même nom, mais beaucoup moins prestigieux et beaucoup plus facile d'accès qu'un véritable TED Talk. Et ça, c'est un stratagème qui est connu d'ailleurs, hein, c'est un truc qui est beaucoup utilisé par les arnaqueurs type coach de vie, gourou sur internet. Encore une fois, je vous recommande vraiment d'aller voir l'enquête de Edge Bomber Guy, c'est un peu long, mais ça vaut vraiment le coup. On y apprend plein d'autres nouvelles vérités sur Tommy, notamment sur la façon dont il s'est mis à dos les forums d'internet à l'époque de son émission de jeux vidéo, en mettant gratuitement une sale note à Super Smash Bros Melee. Ça s'appelle chercher la merde. Bien évidemment, depuis, il avait réussi à faire passer ça pour une fausse rumeur et tout le monde avait oublié cet épisode. Mais avec tout ce qui a été déterré récemment, bah, cette histoire prend une nouvelle saveur. On découvre aussi comment il a photoshopé des photos de stars pour y ajouter le logo de son studio sur leur t-shirt. Ou encore ce moment très précis où il a fait croire à tout un forum qu'il avait rencontré le Dalai Lama en postant une photo de lui qu'il avait fait avec une statue de cire du musée Tussaud, l'équivalent anglais du musée Grévin. Encore une fois, tout ça c'est des petits mensonges qui n'engagent rien, mais n'oubliez pas que bah parfois mentir ça peut ramener énormément de problèmes. Dans sa vidéo, Edge Bomber Guy revient sur les petits démêlés que Tommy a eu avec la justice. Il se trouve qu'une fois, il est revenu d'un concert Video Games Live qu'il avait donné au Brésil avec une mallette contenant 100 000 $ sur lui et qu'il s'est fait choper une fois arrivé à l'aéroport aux États-Unis. Vu qu'il est un petit peu doué là-dedans, il va vite essayer de trouver une embrouille pour les policiers de l'aéroport. Il raconte aux policiers qu'en fait, il a séparé le cash entre tous ses différents musiciens, justement pour ne pas dépasser la limite légale d'argent qu'il pouvait amener sur le territoire, pour finir par rassembler la somme une fois arrivé aux États-Unis et ainsi ne transgresser aucune loi. Sauf que ce genre d'organisation, ça aussi c'est un crime. Un crime pour lequel vous pouvez écoper de 5 ans de prison, ainsi que d'une très grosse amende pour toutes les personnes impliquées. Bon, quand il a su ça, il a vite fait machine arrière et avoué à la justice qu'il avait menti et qu'il avait ramené l'argent tout seul. Et au final, il s'en sortira qu'avec une petite amende de 1 000 $. Même si ça aurait pu lui coûter beaucoup plus cher. Bref, je ne sais pas combien de fois je vous l'ai déjà dit, mais allez voir l'enquête de Edge Bomber Guy pour avoir tous les détails les plus croustillants sur cette affaire. Surtout qu'il a aussi enquêté sur l'Amico et ses backstage, et vous allez voir qu'il a découvert des trucs ahurissants. Bon alors, il a pas besoin de ma pub, hein, il a déjà 6,6 millions de vues, je crois, au compteur. D'ailleurs, il y a peut-être même certains d'entre vous qui ont déjà vu cette vidéo, donc n'hésitez pas à compléter en commentaire. Et d'ailleurs, en parlant de commentaires, ça me fait penser à un dernier détail. On va dire qu'il est pas rare de croiser Tommy Tallarico dans des commentaires sous des vidéos à 300 vues, mais bizarrement, aucune réponse de sa part depuis la sortie et l'explosion de cette enquête sur YouTube. Malgré tout, cette enquête n'a pas été sans retombées. Tout d'abord, Tommy Tallarico est poursuivi par une entreprise de design intérieur qu'il aurait oublié de payer lorsqu'il a fait construire ses locaux. Mais pourtant, ça n'empêche pas Tommy de faire comme si de rien n'était et de faire des vidéos d'annonces pour des tournées de Video Games Live au Chili. Le problème, c'est qu'après la vidéo, tout le monde s'est mis un petit peu à fouiller dans les affaires du Video Games Live. Et ce qui en ressort, c'est que leurs concerts aussi, ils sont malheureusement un peu bidons. Bon, déjà, première surprise, Tommy ne joue pas réellement de la guitare en live. Tout semble être enregistré à l'avance, y compris les bruits de câbles qui se pluguent dans sa guitare. Mais surtout, on sait à présent que Tommy Tallarico fait appel à des orchestres locaux pour chaque concert, le Video Games Live n'ayant donc pas de formation de musiciens fixe. Alors en soi, ça pose pas de problème, c'est quelque chose qui se fait plutôt souvent. Le seul problème, c'est quand on sait que chaque concert est joué par-dessus une piste symphonique pré-enregistrée, piste symphonique qui contient bien plus d'instruments que ce qu'il y a sur scène. Bah oui, quand on fait appel à des tonnes d'orchestres différents sur place pour jouer les concerts, on contrôle pas forcément le nombre d'instrumentistes ni les instruments dont ils jouent. Et donc forcément, il leur faut une piste musicale en fond, avec chaque morceau joué par un orchestre complet pour que le tout sonne correctement. Bref, on est loin des véritables concerts de musique symphonique qui sont vendus par Tommy depuis des années. Et c'est vrai qu'après ça, on est obligé de s'interroger sur chacun des faits d'armes de ce bon vieux Tommy. Mais alors moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de retenir aujourd'hui le nom de Joey Kouras. Joey aura conçu l'identité sonore d'un bon nombre de jeux qui ont fait notre histoire, et c'est lui le véritable créateur du de Roblox, aujourd'hui disparu.